Bienvenue sur Manipura, un podcast de développement spirituel qui s'adresse à vous si vous souhaitez vous reconnecter à votre plein pouvoir en prenant confiance en vos capacités et en étant aligné avec vous-même et l'univers, vers une sphère émotionnelle et mentale équilibrée et un ego sain. Je suis Amba, énergéticienne, tarot, astrologue, et ma mission est de vous aider à développer toutes les ressources déjà en vous. À travers des outils comme l'énergétique, l'astrologie et la cartomancie, mon objectif est de vous rendre acteur de votre mieux-être et indépendant sur le chemin de votre spiritualité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode un peu spécial où j'ai simplement lancé l'enregistrement et même si j'ai une idée de ce que je veux vous dire et comment, j'ai pas trop organisé ma pensée et je me dis que ça peut faire un petit aparté et une petite pause dans nos séries d'épisodes sur l'énergétique, d'avoir un épisode plus à la cool, si je peux dire, même si le sujet dont on va parler aujourd'hui est un petit peu difficile ou en tout cas... Et c'est pas forcément le plus joyeux, mais je me dis que ça peut vraiment aider à ouvrir des perspectives ou simplement avoir un retour d'expérience. Parce que quand j'avais fait mon épisode sur la déréalisation et la dépersonnalisation, l'épisode numéro 35, j'ai toujours à ce jour des gens qui me disent à quel point ça les a aidés de m'écouter parler de ça. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de l'anxiété, des peurs irrationnelles, crises d'angoisse, de celles qui figent et qui nous amènent à un quasi-burn-out ou en tout cas de ce qui peut ressembler à un burn-out. Évidemment, je vous parle de mon expérience. C'est pas des épisodes où je suis dans ma zone de confort. C'est jamais trop évident pour moi de parler de mon expérience personnelle. Je sais pas, je me dis que ça peut aider. Donc écoutez, je me lance. Et c'est aussi, moi, une certaine manière d'exorciser aussi tout ça. Parce qu'il y a une partie de moi qui me disait, si j'en parle, ça va raviver des trucs. Et vous allez voir qu'un de mes conseils, justement, pour pallier aux pensées irrationnelles dans ce genre, c'est d'aller à l'encontre. Donc c'est un petit peu aussi un défi pour moi que d'en parler, pour poser des mots et aussi pour faire un pied de nez à mon mental. C'est un entraînement que j'ai en ce moment de contredire mon mental, je vais vous en parler un petit peu plus. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, j'ai eu un début d'année qui était assez difficile, on va pas se mentir. J'ai eu plusieurs deuils, si je peux dire. Enfin oui, j'ai eu un deuil, un vrai deuil. Et un deuil, un vrai deuil aussi, mais émotionnel d'une relation, couplée à d'autres choses qui étaient très difficiles à vivre émotionnellement. Et il y a eu clairement un trop-plein et un moment où je pouvais plus gérer. Il faut savoir que quand vous travaillez en tant que thérapeute ou dans les métiers de l'accompagnement, c'est très important d'avoir des sas de décompression parce que vous travaillez avec de l'humain. Si vous n'avez pas ces sas de décompression, vous avez vite fait d'accumuler. Et si en plus s'ajoutent d'autres pressions de votre vie personnelle ou d'autres événements ou d'autres sources de stress, ça peut très vite faire un trop-plein qui est ingérable. Et ça a été mon cas. J'étais arrivée à un point, pour vous dire un petit peu l'enchevêtrement de tout ce qui s'est passé, où à cause d'événements personnels, je n'arrivais plus à travailler. Et il faut savoir que quand on est indépendant, si on ne travaille pas, on n'a pas d'arrêt maladie, enfin on n'a pas de filet de sécurité qui soit si évident comme quand on est en salariat. Donc si je ne travaille pas, il n'y a plus rien qui rentre. Mais en même temps, j'étais incapable de faire mon travail. À ça, c'est rajouter une pression en fait, parce que s'il y a bien une chose dans ma vie que j'ai toujours réussi à faire, c'est travailler, c'est le professionnel. Qu'il y ait des éléments dans ma vie personnelle qui tombent un petit peu en ruine, c'était difficile, mais que ça se répercute sur la seule chose que j'avais toujours réussi à gérer, c'est-à-dire le professionnel, c'était très compliqué. Ça m'a fait très peur, parce que je suis quelqu'un qui assume seule ma vie. Je me débrouille de A à Z. Et là, de plus être dans cette hyper-responsabilisation que j'ai l'habitude pourtant d'avoir et qui n'est pas forcément très saine non plus, ça m'a fait vraiment tout drôle parce que tout d'un coup, je n'étais plus stable. Cette stabilité perdue, Enfin, c'était très nouveau pour moi. Je suis quelqu'un de très solitaire et tout d'un coup, je supportais plus la solitude. Beaucoup de choses qui m'ont complètement déstabilisée parce que je n'étais plus moi ou en tout cas, je n'arrivais plus à répondre à ce que normalement je pouvais faire, les doigts dans le nez. Par souci de discrétion, je vais pas vous en dire plus sur les origines de tout ce qui s'est passé pour moi. Je vais simplement vous parler des éléments qui sont importants pour la compréhension. Mais voilà, je désire pas forcément parler de ma vie privée. Pour vous dire les conséquences, j'en étais arrivée à un point où je ne dormais plus, littéralement. C'était des grosses crises de panique, tachycardie, qui m'empêchaient de dormir, littéralement. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Donc impossible de travailler, évidemment, et j'étais seule pour gérer tout ça. Donc ça, c'était le plus difficile, c'était d'être seule quand ces choses-là arrivaient, parce que du coup, bah en fait, enfin d'être seule tout le temps, parce qu'il y avait ce côté, j'étais complètement enfermée dans mon mental qui s'affolait complètement, mes émotions qui s'affolaient complètement, mon corps qui s'affolait aussi, et il y avait une sensation de perte de contrôle qui était tellement immense. Et en plus, s'il m'arrivait quoi que ce soit, et c'était le cas, je ne pouvais plus me reposer sur rien du tout et je me sentais complètement coincée et abandonnée, dépourvue de solutions. Et si vous voulez, dans ces états-là, on a un enchaînement de pensées anxieuses qui, c'est comme un petit train où on va de peur irrationnelle en peur irrationnelle. Par exemple, je peux pas travailler, donc je pourrai plus payer mes factures, donc je vais finir à la rue, donc je vais plus pouvoir voyager pour aller voir ma famille, donc je vais être tout le temps toute seule, donc après j'arriverai plus jamais à me relancer dans une activité. Et vous voyez l'enchevêtrement de pensées irrationnelles qui fait que c'est sans fin et que le petit train de l'anxiété prend de la vitesse jusqu'à rencontrer un mur, quoi. C'est un peu ça le délire. Je partais vraiment de loin et je pense que c'était couplé. Alors je sais pas si c'était un. Je veux pas mettre le mot burn-out trop rapidement parce que je pense que c'est quelque chose qui nécessite quand même un diagnostic et c'est pas mon cas. Mais j'arrivais plus rien à faire, c'est-à-dire envoyer un message, c'était impossible. Allumer mon ordinateur déjà générait de l'anxiété. J'étais complètement coincée et la moindre chose me demandait un effort monumental. Donc l'environnement du coup se dégrade parce que bah, vous faites plus le ménage, il y a plein de choses qui ne se déroulent plus comme d'habitude et vous vous dégradez, l'environnement se dégrade et c'est une réaction en chaîne mais aussi un cercle vicieux parce que on n'arrive plus à savoir par quel bout prendre la situation pour s'en sortir et on est dans un état d'affolement qui est total et permanent. En tout cas, on a l'impression, en tout cas, que ça va être permanent. Et du coup, parce qu'on a l'impression que ça va être permanent, on a tendance à le rendre permanent. C'est-à-dire que on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Du coup, on s'affole et on entretient comme ça le cercle vicieux de l'angoisse. Là, je vous ai fait un petit topo, mais le but pour moi, c'est de vous dire comment j'ai fait pour m'en sortir, tout simplement, parce que le but, c'est de vous donner des pistes. Même s'il y aura des choses qui paraîtront assez logiques et générales dans ce que je vais dire, il y en a d'autres qui peut-être feront un électrochoc pour certaines personnes. J'aime bien me dire que peut-être ce podcast arrive au bon moment pour certaines personnes et qu'elles ont besoin d'entendre ça. C'est parti, on va aller voir ça tous ensemble. Alors, la première chose, c'est de casser l'état d'isolement, si c'est votre cas. Ça a été mon cas. Moi, j'étais persuadée que j'étais complètement toute seule pour faire face à tout ça. C'était pas le cas. J'ai une personne de ma famille qui a fini par venir pour m'aider et ça m'a beaucoup, ça a cassé ces prévisions anxieuses qui me disaient que j'étais toute seule et que j'allais jamais m'en sortir parce que voilà, il y aura personne autour de moi, etc. Donc, en fait, il faut des éléments qui viennent contredire vos peurs irrationnelles. Et ces éléments-là, souvent, c'est les proches ou en tout cas des personnes de confiance à qui vous pouvez parler ou un thérapeute, un psychologue. Moi, j'ai fait beaucoup de séances d'hypnothérapie pendant la période. Ça m'a aidé énormément parce que, en fait, quand vous êtes coincé dans vos pensées irrationnelles, d'avoir un élément extérieur, une personne extérieure, un élément extérieur qui vient juste ramener une autre perspective, même si ça vous paraît encore un peu fragile, en fait, ça casse votre monde qui est en train de se construire autour de choses irrationnelles, ça va casser ça en apportant une nouvelle perspective et ça aide énormément. Donc de casser l'isolement déjà, ça va être très très important de dire que ça va pas, de l'exprimer, ça paraît bateau, hein, mais en fait plus vous allez rester dans votre petit monde, plus il va s'auto-nourrir et plus vous vous enfermez dans ces process-là. Et ça passe par ne pas faire semblant. Par exemple, quand j'ai cette personne de ma famille qui est là, je vais lui dire « Ah, là, je me sens stressée » ou « Ah, là, je me sens anxieuse ». Et en fait, ça permet de pas cacher ce qui se passe en vous et de le ruminer à l'intérieur de vous, d'essayer de ravaler le truc pour faire genre « Ah oui, oui, mais tout va bien », etc. Non, d'exprimer vraiment « Ah, là, ça va pas, là, je sens que... » Et du coup, la personne peut juste être là pour accompagner l'émotion, essayer d'engager la parole, de vous ouvrir sur autre chose. Donc, c'est très important de parler de votre état actuel, de pas ruminer, de pas laisser à l'intérieur de vous juste parce que vous dites « Bon, j'ai pas envie d'embêter la personne. » Non, de juste dire « Là, ça va pas » ou « Là, il y a quelque chose qui remonte. Je sais pas pourquoi. Ah, tiens, là, je suis en train de m'affoler un petit peu. Je sais pas pourquoi parce que... » Le corps s'affole parfois sans que vous compreniez, alors c'est un peu inconscient et en fait, il y a aussi ce côté où vous êtes dans un tel état de stress que le corps commence à se dire « Ah, il faut que je m'affole ». Je sais pas trop pourquoi, mais du coup, j'ai l'impression que l'état de stress est général, donc je vais le supporter avec des signes d'alerte un peu partout. C'est le serpent qui se mord la queue parce que si le corps réagit alors qu'il n'y a aucun danger, et ben vous vous dites « Ah mais du coup il y a un danger, il y a quelque chose » et ça s'emballe tout seul. Il y a cette relation corps-mental-émotionnelle qui fait des loopings et c'est juste difficile d'arrêter la spirale. Mais simplement du coup de casser la spirale en parlant de la sensation, en l'évoquant à voix haute à quelqu'un, soit un professionnel, soit un proche. Les deux, c'est mieux, parce que le proche va avoir cette dimension de vous rassurer peut-être et de vous divertir, d'alléger la situation. Et le professionnel, lui, il aura plus une approche bah, justement d'écoute attentive, certes, mais sur un aspect thérapeutique, pro, etc. Et il saura amener la conversation là où c'est nécessaire pour dédramatiser. Et ça, j'en viens à ce deuxième conseil, c'est de dédramatiser. C'est-à-dire que quand on est dans ses pensées, ce sont des pensées irrationnelles. Et ce qui les nourrit, c'est le drama. C'est le drama intérieur de « oui, mais c'est comme ça, il va se passer ça, ça va toujours être comme ça, je vais rester coincée dans cette émotion, je vais rester coincée dans cet affolement, ça va jamais se calmer, ça va jamais partir, ça a été comme ça hier, ça a été comme ça avant-hier, donc ça sera comme ça demain et après-demain. » On dédramatise. Ça m'a beaucoup aidée, cette phrase que j'ai entendue, que la peur, par définition, elle est toujours irrationnelle. La peur, c'est irrationnel. Parce qu'en fait, quand on a peur, quand il y a une peur, c'est qu'on considère que ça va se passer à 100% mal. Et c'est irrationnel, parce que dans la vie, en fait, rien n'est à 100% mal ou à 100% dans un état de catastrophe. Il y a toujours un pourcentage plus ou moins fort de ressources qui font qu'on arrive à s'extirper d'une situation. Il y a toujours un pourcentage pour que les choses se passent autrement ou différemment. Et surtout, quand on est dans des peurs, on oublie complètement notre capacité à faire face à nos ressources. On omet complètement notre capacité de résilience, notre capacité à faire face, parce qu'on est tellement omnibulé par la peur que on en oublie tout ce qu'on est capable de faire et tout ce qu'on a pu déjà faire par le passé et tout ce qu'on a pu déjà traverser et surmonter. Donc la peur, par définition, est irrationnelle parce qu'il n'y a jamais quelque chose qui est à 100%, qui va à 100% se dérouler dans la lignée de cette peur. Il y a toujours un pourcentage de quelque chose qui vient changer la donne ou créer une ouverture, créer une solution, d'autres éléments qu'on n'a pas pris en compte qui peuvent venir aider. Moi, par exemple, dans mon état d'affolement, j'avais l'impression que j'étais vraiment toute seule pour y faire face. Et j'ai cette personne de ma famille qui est venue pour démentir, en fait. Ça a vraiment démenti ma peur, qui au final était vachement irrationnelle parce que, bon, ça peut se cantonner à d'autres exemples. Mais en soi, j'étais jamais toute seule. Si je pouvais tout le temps trouver des ressources, des personnes, je pouvais sortir, demander de l'aide à des voisins. Enfin, en soi, il y a toujours des ressources. Et quand on est dans cet état de peur, on ne les voit plus. ça va être de dédramatiser, de rationaliser aussi. Ça, un professionnel peut vous aider à ça aussi, c'est rationaliser la situation, la prendre pour ce qu'elle est, non pas via le chemin de la peur qui va décrire le pire scénario, mais de voir, ok, rationnellement parlant, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'on peut créer comme solution? Qu'est-ce qu'on a comme ressources à disposition? De rationaliser, et ça c'est difficile de le faire par vous-même, donc c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'avoir une personne pour vous aider à le faire, sur les solutions, sur les possibilités, sur le fait que, en général, il ne se passe absolument rien dans l'instant T qui vous met en danger. Ce qui vous met en danger, c'est... Enfin, ce que vous avez l'impression d'être un danger, c'est ce qui peut se passer si... ce qui va se passer si ça continue comme ça. Vers quoi ça peut amener. Et ça, c'est juste des prévisions anxieuses. C'est tout, c'est des prévisions anxieuses. Et on va démentir ces prévisions anxieuses en montrant que là, en soi, il se passe rien. Je ne suis pas dans un danger de mort imminent. Peut-être qu'il y a tachycardie, sueur froide, je ne suis pas en forme, je n'ai pas dormi, etc. Mais en soi, je ne suis pas en danger de mort imminent. Tout va bien. Et si j'arrive à dédramatiser le court-circuit, ces symptômes vont s'abaisser dans tous les cas. Donc je suis le moteur de ce qui se passe, mais je suis aussi le moteur pour arrêter ce qui se passe. J'avais fait un reel là-dessus il y a très très longtemps, sur les pensées négatives, les pensées positives, etc. Souvent, on a l'impression que sortir des pensées négatives, c'est hyper compliqué, et c'est très difficile d'aller vers la pensée positive. C'est très difficile de sortir d'un état de... J'ai eu ça aussi avec une élève là récemment qui me disait... Je disais que la plus grande protection dans nos milieux énergétiques, c'était d'avoir confiance, d'avoir la foi absolue. Et elle m'avait dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et en fait, c'est plus facile à dire qu'à faire si tu le penses. Oui, si tu penses que c'est difficile, ça va être difficile. Mais en soi, le mécanisme entre ne pas avoir la foi ou avoir la foi, le mécanisme entre pensée négative et pensée positive, c'est le même, c'est le cerveau. C'est le cerveau, c'est la même machine. Pour vous donner un exemple que j'aime bien, c'est l'idée d'une voiture, ok. Forcément, descendre une pente avec une voiture, ça va beaucoup plus vite. La voiture, enfin les roues peuvent... être en roue libre, littéralement, et la descente est peut-être très rapide. Ça, c'est la pensée négative. Mais en soi, dans la voiture, le moteur, que vous soyez en pente en descendant ou en pente en montant, c'est le même moteur. C'est juste que, en montant, il va falloir mettre un peu plus d'accélération pour lancer la machine et que la voiture puisse monter la pente. Le moteur n'a pas changé. Votre cerveau, c'est la même machinerie. S'il est capable de créer de la pensée négative, il est tout autant capable de créer de la pensée positive. L'un est plus facile que l'autre parce que pensée négative, si vous en avez l'habitude, vous avez l'impression que c'est la pente descendante et du coup, la machine, les roues s'affolent plus vite et c'est plus facile d'aller vers ça. Donc ça demande un petit effort d'aller vers la pensée positive. Mais une fois que vous comprenez que l'outil est exactement le même, c'est le cerveau, et qu'il est capable de générer les deux, avec la même puissance, parce qu'en fait c'est le même moteur, en soi, tout est déjà là. Toute la ressource est déjà là, vous n'avez même pas à la créer, vous avez juste besoin d'une impulsion pour l'élan, pour aller vers cette pensée positive, ou aller vers cette foi, c'est l'élan du cœur, ou l'élan dans le fait de vous auto-persuader. En fait, c'est de vous dire, si je m'auto-persuade de ces peurs irrationnelles là, je peux aussi m'auto-persuader que les choses se passent bien. Et si les choses se passaient bien? Et si les choses se passaient bien? En fait, c'est un entraînement. Quand on est dans un état d'affolement, le cerveau s'emballe, etc., etc., et l'exercice que je faisais, et que je fais toujours, c'est de me dire justement, ok, ça peut se passer comme ça, mais si ça se passait bien, comment ça se passerait? Littéralement, comment ça se passerait? Et ça entraîne votre cerveau à créer d'autres connexions, tout simplement. Et il y a autre chose aussi là-dessus, qui, quand vous faites beaucoup de crises d'angoisse ou ce genre de choses, comme la peur est irrationnelle, votre cerveau, alors j'ai pas les termes scientifiques ni les preuves scientifiques à vous donner, c'est juste mon observation et mon expérience en tant que thérapeute, mais votre cerveau va s'attacher aux éléments du moment pour justifier la peur. Je vous donne un exemple débile, mais par exemple, je sais pas, quand vous étiez en crise d'angoisse, vous étiez en train de boire dans une tasse, une certaine tasse. Et là, maintenant, dès que vous voulez prendre cette tasse, il y a une angoisse qui monte. Parce que votre cerveau a relié cette tasse à l'angoisse. Parce que l'angoisse n'avait absolument rien de rationnel, et du coup, c'est rattaché à l'environnement, à ce qui était dans cet environnement, à ce qui créait cet environnement, pour justifier ou pour appuyer l'état d'angoisse. L'environnement m'angoisse, ça m'angoisse, cette disposition-là m'angoisse. Moi, comme j'avais eu des crises d'angoisse sur plusieurs jours, et même quand, par le passé, quand j'avais eu ça aussi, et quand on a la déréalisation, dépersonnalisation, ce genre de choses, on va avoir tendance à faire ça aussi. C'est-à-dire qu'on va relier les situations, les événements, enfin les environnements, etc. à l'angoisse. Alors que non, c'est juste qu'on a été angoissé dans cette disposition-là. Mais c'est pas parce qu'il y a cette disposition-là qu'on est angoissé. Ok? Et du coup, pour pallier à ça, à chaque fois que mon cerveau me disait non, par exemple, va pas boire dans cette tasse parce que dans cette tasse, c'est celle que t'as eue quand t'as eu une crise d'angoisse. Ou va pas mettre ce pull-là parce que c'était quand t'avais ce pull-là que t'as fait une crise d'angoisse. Ça, c'est des liens irrationnels que votre cerveau a fait quand vous étiez... parce qu'il avait besoin de se rattacher à quelque chose où ça le rassure d'avoir une forme de contrôle, de se dire je vais m'éloigner de l'angoisse en m'éloignant de tout ce qui me fait penser à l'angoisse. Alors que ça a aucun intérêt. Donc, moi, quand ça m'arrive, ce genre de choses, ben, je vais boire dans cette tasse. Je vais mettre ce pull. Je vais faire exactement ce que mon cerveau me dit de pas faire, parce qu'il pense que ça pourrait enclencher quelque chose. Et ça permet de prouver juste que la teneur, la nature irrationnelle de toutes ces pensées-là, ça dédramatise, ça contredit votre cerveau, votre mental, et ça vous redonne un autre contrôle sur la situation où vous vous laissez pas emporter justement par ces flots de pensées qui n'ont ni queue ni tête, mais qui peuvent avoir un ascendant sur vous énorme si vous les laissez prendre le pas. Je suis partie un peu loin, mais je reviens un peu en arrière parce qu'il y a encore plein de choses que je voulais vous dire. Quand on arrive à cet état de fatigue qui est tellement intense, si c'est possible, de manière générale, essayez au maximum de réduire tout ce que vous avez à faire, tout ce que vous devez faire, de revenir à des choses qui vous stabilisent, en tout cas juste le temps de vous remettre de vos émotions, de pas vous en demander trop et d'avoir vraiment de créer de l'espace, de déléguer des choses si possible, de créer de l'espace, de pas attendre de vous de revenir à un rythme, à votre rythme normal directement. Vous avez besoin de temps, il y a des choses qui ont été difficiles, qui ont été vécues et où vous avez besoin juste de vous remettre sur pied, donc d'y aller petit à petit. Je sais que pour me remettre sur en selle, je répondais peut-être à 2 mails un jour, l'autre jour je faisais 2 mails plus ça, l'autre jour je faisais 2 mails plus ça, enfin vous voyez j'y suis allée progressivement sans trop m'en demander, parce que ça sert à rien non plus d'être dans la confrontation. On peut être dans la confrontation des peurs, mais juste de respecter son énergie. On est en train de gérer plein de choses émotionnellement, mentalement, et ça prend beaucoup d'énergie aussi. Donc de respecter ça, de respecter ce process-là en nous. Autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'était donc de mettre à plat, mais de dire les choses. En fait, je ne sais pas si on se rend compte, si vous vous rendez compte, de tout ce qui pourrait être dénoué comme nœud dans l'estomac, juste si vous dites les choses. De juste dire les choses. Et en général, on ne dit pas les choses parce qu'on a peur des conséquences, on a peur peut-être de blesser, on a peur de perdre quelqu'un, on a peur que ça crée un big bang, que ça crée un chaos, on a peur des conséquences, mais en fait ça ronge tellement à l'intérieur à un point qu'on n'imagine même pas, que c'est juste vous condamner à avoir cette sensation et à ne pas être bien. Alors si c'est trop confrontant de dire les choses aux personnes concernées, d'en parler à un professionnel qui vous donnera des conseils, qui écoutera votre parole et surtout qui accueillera tout ça, parce que vous avez besoin de décharger ces choses-là, de pouvoir les exprimer, les extérioriser. Juste le poids, enfin la puissance et le poids des non-dits, c'est quelque chose qui peut vraiment ruiner des personnes. Donc de dire les choses, vraiment de dire les choses. Et en général, Mieux vaut que ces non-dits soient dits, même si ça crée des big bang, même si ça a des conséquences, parce que tout le monde sait de quoi il en retourne au moins, et ça fait du bien à tout le monde, même si sur le moment c'est très compliqué. Il y a des personnes qui sont peut-être pas prêtes à recevoir ce que vous voulez dire en face, ou des personnes pour qui ça va être compliqué à entendre. Il y a des manières de dire les choses aussi, évidemment, mais s'il y a un truc que j'ai bien, que je travaille toujours moi, et qui est très très compliqué, c'est de plus porter la culpabilité des autres sur moi, enfin de plus me sentir coupable pour les autres H24, parce que d'être dans la surresponsabilisation de ce que va ressentir l'autre, ça fait que vous vous mutez, vous vous mettez sous silence, vous accumulez, vous accumulez, vous accumulez, et c'est juste pas possible. Le pouvoir des non-dits, ça peut vraiment peser à la longue. Donc de dire les choses, même si c'est difficile, même si il y a des conséquences derrière, mais au moins ça décharge, quoi. Ça décharge vraiment. Donc ça, c'est très important, à mon sens en tout cas. Désolée, c'est un peu décousu. Je reviens un petit peu sur cet aspect de gestion de l'énergie, donc de pas s'en demander trop quand c'est comme ça. Avoir un soutien médicamenteux aussi, si c'est nécessaire. Je pense qu'il faut vraiment pas diaboliser ça. C'est moi, je sais que pour m'aider à dormir, il fallait passer par là. Parce qu'en fait, si vous accumulez de la fatigue, vous accumulez aussi le fait de pouvoir moins faire face aux états de stress parce que votre mental, enfin vous êtes juste crevé quoi. Vous n'avez pas de vrai repos pour vous régénérer. Donc d'avoir parfois un soutien médicamenteux, le temps de s'en sortir, le temps de passer, de franchir une étape, et c'est pas déconnant, et ça peut vraiment faire du bien. Revenir au corps aussi, se dépenser. Alors je sais que dans ces moments-là, tout est compliqué et tout demande une force incroyable. Et surtout, on a tendance à vouloir fuir le corps parce que le corps a l'air d'être quelque chose qui va amener justement de l'angoisse, de l'anxiété, quelque chose de douloureux. Au contraire, il faut pouvoir le dépenser, ce corps. Non pas pour fuir dans le fait de se dépenser physiquement et de plus s'écouter, mais juste d'avoir une dépense physique, petite ou importante, mais pour déjà dépenser notre énergie, dépenser le corps, libérer tout ce que ça peut libérer, endorphines, etc., etc., et revenir à un lien qui soit sympathique avec son corps aussi, c'est-à-dire connecter avec lui d'une autre manière que par la crise d'angoisse et le stress, de connecter en prenant l'air, en se dépensant, enfin bref, vraiment dépenser le corps, ça aide beaucoup. Et en plus, ça fait toujours du bien. Franchement, l'activité physique, quelle qu'elle soit, même si elle n'est pas très importante, c'est toujours bénéfique. Ça fait toujours du bien. Et quand on est dans ces moments-là, on va toujours s'éloigner des choses qui nous feraient potentiellement le plus de bien. Et c'est dommage, mais c'est normal. C'est parce qu'on est dans un état d'affolement et on n'est pas dans notre rationalité. Sans transition, excusez-moi, c'est encore une fois très décousu. Ça va être important de prendre conscience que c'est notre stress qui impacte l'environnement et non l'inverse. C'est-à-dire que ça rejoint un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur le fait que le mental va essayer de trouver des connexions pour justifier les peurs irrationnelles. Moi, je sais que pendant les crises, par exemple, je supportais plus là où j'habitais. Et là, maintenant, on est redevenus amis avec ma maison. Parce qu'en fait, c'est pas la maison le problème, c'était moi dans la maison. Dans ces états-là, on a tendance à se sentir oppressé par l'environnement et à connecter une énergie très négative sur ce qui nous entoure, soit l'environnement, soit les personnes dans l'environnement. Mais souvent, c'est l'état de stress en fait qui crée ça. De juste se dire qu'une fois que les choses seront calmées, ça va vraiment s'améliorer à ce niveau-là. De comprendre que c'est vraiment nous qui impactons ça. Clairement, c'est notre perception. C'est compliqué quand on est en plein dedans. Mais vraiment, c'est notre stress qui impacte l'environnement et non l'inverse. À moins que vous soyez en état de danger imminent, ce qui, 99% des cas, enfin c'est pas le cas quoi. Vous n'êtes pas là dans l'instant T, quand vous êtes en train d'être dans un état d'affolement, de vous dire en fait, là, il n'y a rien. Et c'est ça aussi qui fait peur, parce que justement on se dit, bah justement il n'y a rien, pourquoi alors je m'affole? S'il n'y a rien et que je m'affole, eh ben c'est vraiment que tout est fucked up et que ça va rester comme ça et que ça va... Juste... C'est ok, c'est juste parce qu'il y a une réaction où on s'est dit que c'était pas normal ce qu'on est en train de vivre et ça crée du stress. Mais vraiment, on dédramatise et aussi on se dit, ça c'est très important, que ça va passer. Rien n'est jamais permanent, même l'état de stress et d'anxiété. Ça peut durer longtemps, mais ce n'est jamais permanent. Dans ces moments irrationnels, faut juste prendre conscience de l'absurdité de la réaction en chaîne qui s'opère, de l'absurdité de l'état d'affolement. Une fois que les choses ont, que vous vous êtes éloigné des sources de stress et ou que vous aviez dit les choses, que vous aviez vraiment mis le point sur ce qui vous stressait, sur l'origine de tout ça et ou sur ce qui pouvait l'alimenter, là vous êtes en train de trouver des solutions, donc c'est très cool. Mais pour pallier au stress qui continue et qui se dit il y a toujours un danger, il y a toujours quelque chose que je dois faire pour que ça aille mieux, etc. Alors qu'en soi c'est juste l'état d'affolement qui parle, il faut juste se rendre compte de l'absurdité de cet état-là. Moi, je me surprends, moi, à me parler à voix haute quand c'est comme ça, en me disant « Non, tu crois vraiment que ça va mal se passer, là ? Attends, attends, tu l'as déjà fait hier, ça s'est très bien passé. Pourquoi ça se passerait pas bien, là ?» En général, j'ai rien pour argumenter. Mon cerveau va juste dire bah, « Ça va mal se passer parce que je m'affole, donc je vais stresser, donc ça va mal se passer. » Oui, mais si tu t'affoles pas, est-ce que ça va mal se passer ? Ben, si je m'affole pas, ça va pas mal se passer. Mais si je m'affole, oui, mais si tu t'affoles pas. Au final, il n'y a rien, il n'y a aucune donnée qui fait que tu as besoin de stresser ou de t'affoler. Donc c'est juste, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous développer, mais de vous parler limite à voix haute pour essayer de mettre en porte-à-faux votre cerveau et votre mental pour lui montrer l'absurdité de l'état d'affolement qui se met en place. Autre chose que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est de désamorcer les triggers un à un. Ça, c'est ce que je vous ai dit au niveau de tout ce qui pourrait vous déclencher, de les désamorcer un à un, de montrer à votre cerveau que il n'y a aucune raison d'être déclenché par rapport à ça, il n'y a aucune raison d'avoir créé un lien entre ça et l'anxiété, et ou s'il y a une raison, maintenant, il n'y en a plus aucune. Donc c'est de dédramatiser aussi les triggers que vous pouvez avoir, les déclencheurs au quotidien. Par exemple, si je fais ça comme ça, et ben ça va me déclencher un stress. Non, la dernière fois, ça m'a déclenché un stress parce qu'il y avait d'autres facteurs. Mais là, tous ces triggers, je peux les désactiver petit à petit parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Moi, par exemple, quand j'ai voulu enregistrer ce podcast, j'ai eu ce côté « Oui, mais si j'en reparle, ça va tout raviver, etc. » Et je me suis dit « Bah non, allons-y, parlons-en. Parlons-en, allez, c'est parti. » Et au final, ça se passe très bien. Et le cerveau qui va peut-être se dire « Oui, mais si ça se passe bien, pas bien après, eh ben ça se passera peut-être pas bien après. Dans ce cas-là, on peut prendre des petites plantes pour se déstresser, etc. Mais en soi, là, tout va bien. Tout va bien ? Tout va bien. » C'est là en bas qui monte le podcast qui est en train de parler. Quand je vous parle de plantes à prendre, on est d'accord que je ne fais pas l'apologie de plantes... je fais l'apologie de la passiflore, de la mélisse, des choses qui soient justement calmantes pour vous. Pour avoir côtoyé pendant longtemps des personnes, parce que j'ai vécu aux Pays-Bas pas mal de temps, des personnes qui prenaient des plantes récréatives pour se calmer d'état de stress, au final ça a un effet entre guillemets positif sur le court terme, mais sur le long terme ça participe à développer une forme de paranoïa qui au final va augmenter les états de stress, donc c'est pas une solution sur le long terme, ok ? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Allez, on reprend. Revenir au présent, ça c'est... Les prévisions anxieuses, elles le sont parce qu'on est toujours en train de suranticiper comment ça peut potentiellement évoluer. Mais quand on regarde la situation présente, j'ai toutes les ressources pour parler de ce que je veux parler, j'ai le recul, j'ai déjà surmonté plein de fois ce qui pourrait remonter. Pourquoi j'y arriverai pas une autre fois ? Parce qu'au final, je sais que j'ai les ressources, je sais que j'ai les capacités, et là, d'avoir une pensée irrationnelle, de me dire que tout d'un coup, je ne pourrais plus accéder à ces capacités pour surmonter ça, c'est de la pensée irrationnelle. J'ai les capacités, je peux le faire. Je l'ai déjà fait, maintes fois, je peux le refaire. Voilà. Pour revenir un petit peu à tout ça, et pour arriver tranquillement vers une fin de podcast, je dirais que la peur, elle est utile, évidemment. Vous savez, ils ont fait... Il y a une expérience qui a été faite d'arbres qu'on a fait pousser sous un dôme dans les meilleures conditions possibles. Le sol nutritif, la lumière, tout était parfait. Mais c'est des arbres qui, arrivés à une certaine hauteur, tombaient. Parce que dans ce dôme, il n'y avait pas de vent. Et c'était le vent, et c'est le vent qui permet aux plantes de se renforcer, de se stimuler et de se renforcer. Ben c'est un peu pareil pour nous, c'est que nos peurs, c'est ça qui nous renforce, si tant est qu'on les regarde, on regarde ce qu'elles viennent alerter en nous, on les prend pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire un système de mise en garde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que c'est rationnel? Est-ce que c'est irrationnel? La réaction qu'on peut avoir, c'est de paniquer, c'est de se figer, c'est de fuir, c'est de refouler. Toutes ces solutions-là, au final, ça montre qu'on ne l'écoute pas, qu'on ne l'accepte pas, cette peur. Si, au contraire, on valorise le message de la peur sans le nourrir, c'est-à-dire qu'on ne va pas le nourrir, le message de la peur, mais on va le prendre pour ce qu'il est, eh ben, on peut avancer avec cette peur et comprendre le message derrière. Par exemple, dans mon cas, ce qui me faisait peur, au final, c'était d'être seule dans l'adversité. C'était la solitude qui était pesante. Maintenant, je sais que c'est important que je me sois entourée parce que je suis arrivée dans une étape de vie où j'ai plus forcément envie de faire seule, enfin face seule à des situations de vie. Et autre chose, ça c'est plus une réflexion personnelle, je trouve que de manière générale, on a peur de la fin et de la fin des choses. Et c'est pour ça que, par exemple, on va pas dire ce qu'on a envie de dire. On va pas mettre en place ce qu'on veut mettre en place parce qu'il y a la peur des conséquences, la peur que quelque chose prenne fin. Et je pense que c'est parce que la fin des choses, c'est quelque chose de très tabou dans notre société. Et c'est dommage. On a tendance à valoriser la naissance, les débuts, l'élan. Et on a peur de la mort, de la mort, de la grande mort, des petites morts. Alors que si on apprend à célébrer les petites morts, à célébrer les fins, à célébrer quand les choses s'arrêtent, pour ce que c'est, c'est-à-dire une étape d'un cycle, ce serait moins douloureux et on aurait moins peur d'arriver à la fin des choses et ou que quelque chose déclenche la fin. C'est-à-dire, si je dis ça, il y aura une conséquence et ce sera la fin de quelque chose. On aurait moins peur. J'ai eu comme exemple ça, quand je suis allée en Inde, j'ai discuté avec une femme qui disait que la prochaine étape de son voyage, c'était Varanasi. C'est une ville en Inde où c'est un vrai pèlerinage de la mort. C'est-à-dire que les gens viennent y mourir et c'est vraiment un honneur que d'être incinéré là-bas. Et c'est une ville où, en tout cas dans les quartiers où ça se passe, les incinérations sont faites à l'extérieur, à la vue de tous. Et c'est un honneur que d'être exposé comme ça, les corps exposés comme ça. Et moi je disais, mais jamais de la vie je n'irai là-bas, parce que c'est juste trop choquant. Et en fait, elle me disait, mais à partir du moment où tu comprends que ces gens-là, pour eux, c'est vraiment une célébration, c'est vraiment un honneur et c'est vraiment juste une apothéose, et que tu dédramatises aussi le véhicule terrestre, tu dédramatises la mort, tu dédramatises cette fin, tu te rends compte qu'au final, c'est juste la fin d'un corps, et puis c'est tout. Bon, j'avoue que je suis pas toujours hyper sereine à cette idée-là, mais je comprends ce qu'elle voulait me dire. Elle me disait, j'ai tellement travaillé sur moi, sur le fait que la mort ne soit plus un tabou, que ça ne me choque plus. C'est plus quelque chose qui va me perturber. C'est juste, en l'état de fait, la fin de quelque chose. C'est pour ça que je pense qu'on a besoin de ritualiser, de revenir au rituel dans notre société. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que on a eu cette conversation avec cette femme-là et je disais, moi je pourrais jamais voir un corps comme ça, enfin bref. Et en Inde, les cérémonies, les convois funéraires sont à la vue de tous, hein. Et on était allé à un temple, je me souviens que c'était très bondé à l'intérieur et j'étais pas très à l'aise, donc je suis sortie avant tout le monde et j'ai attendu les autres à l'extérieur. Et alors que j'attendais, là j'ai un convoi funéraire qui passe devant moi, avec tout ce que je ne voulais pas voir. La mort est venue à moi, littéralement, et c'était un joli pied de nez. Alors c'était, en plus c'était, voilà, c'est sous les tambours funéraires et les Indiens célèbrent ce passage. Donc moi qui voulais pas aller à la mort, c'est la mort qui est venue à moi pour me montrer en fait que ça fait juste partie de la vie, tout simplement. Et ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que si dans nos sociétés on arrêtait de mettre ce gros tabou autour de la fin des choses, et là je parle de la mort, mais ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une situation, la fin d'un état, si on arrêtait de dramatiser ça et de pas en parler, c'est-à-dire que parfois quand on a perdu un emploi, on a honte, quand on a divorcé, on a honte, ou quand il y a quelque chose qui n'a pas marché, on a honte et on ne va pas en parler, ou on va se faire petit, ou voilà, on le cache. Eh ben, ça entretient l'idée que il ne faut pas parler de la fin des choses, juste quand on commence quelque chose. Mais quand quelque chose prend fin, et j'ai eu ça beaucoup avec mes projets, sur Manipura, il y a plein de choses qui ne se sont pas déroulées comme je le voulais, et plein de projets qui sont morts dans l'œuf, et j'en ai pas parlé. Non pas parce que j'avais envie de le cacher, mais juste, on n'en parle pas. Par contre, quand on commence quelque chose, alors là, sur les chapeaux de roue, tout le monde en parle, on va l'exprimer, on va le dire haut et fort. C'est dommage d'avoir ce tabou ou ce fait de muter, de mettre sous silence la fin des choses, parce que je pense que ça nous réconforterait, nous rassurerait et nous dédramatiserait en fait les fins de cycle. Ou de se dire que si on perd quelque chose, c'est pas si grave au final. C'est juste la perte de quelque chose, mais on va gagner autre chose. Il y a autre chose qui va venir à nous. Et je pense aussi que c'est pour ça c'est important qu'on se reconnecte aux rituels dans nos sociétés occidentales. On a beaucoup perdu ça. On a besoin de rituels, non pas pour s'enfermer dans des dogmes, parce qu'en fait, les dogmes, c'est juste une nouvelle prison pour le cerveau dans lequel il va se rassurer, certes. Peut-être qu'il y aura une forme de discipline aussi, mais au final, ça nous enferme aussi dans une manière d'être et de penser. Et pour moi, les rituels ou la prière que je fais le matin, c'est un conditionnement positif. Je me conditionne et je suis dans une discipline de célébration. M'apprends à célébrer toute chose, toute journée. Et souvent, c'est dommage, quand on va pas très bien, on va laisser tomber nos habitudes, notamment de prière ou de célébration, alors que c'est les moments où justement on devrait encore plus les avoir, ces moments-là. Parce que les rituels doivent pouvoir soutenir les moments où tout va bien, mais aussi où tout va mal. Les rituels sont là pour chérir l'instant tel qu'il est, l'accepter en fait. Ça nous permet d'accepter ce qui se passe et de ne pas le fuir, de ne pas le regarder. On a beaucoup perdu ça en Occident et c'est dommage, c'est parce que la foi est forcément reliée dans l'inconscient collectif, à une religion. Mais la foi, c'est juste d'avoir foi en la vie, dans le courant, dans le cycle, dans les choses qui vont bouger, l'impermanence des choses, d'avoir foi que ça va avancer vers quelque chose. Et la foi, si on n'a pas la foi, c'est compliqué, je trouve, parfois, de naviguer dans ce monde, parce que tout paraît très terne, au final. En bas du montage, bonjour. Et pour continuer à développer là-dessus rapidement, on le voit maintenant de plus en plus, l'essor des différentes spiritualités en Occident, où les Occidentaux vont beaucoup s'approprier des rituels d'autres cultures. Je trouve ça dommage qu'on se sente aussi appauvri dans notre propre culture, pour aller piocher de ça et là dans les autres et faire au final un gloubi-boulga indigeste. Alors moi, je parle en connaissance de cause ou pas, mais maintenant je me suis totalement reliée à l'hindouisme dans mes rituels du matin, mais je prends le full package. Et je trouve ça important, si vous vous référez à une culture, à des rituels, etc., de vraiment embrasser tout ce que ça comporte et non pas juste ce qui vous plaît. Ça vient vraiment de cette déperdition qu'on a en Occident. On ne sait plus trop à quoi se référer et du coup, on va aller piocher. Et vous savez, je trouve que je vais peut-être être un petit peu forte au niveau de mes mots. Alors, c'est mon soleil balance qui n'aime pas trop créer des polémiques, mais il y a un petit aspect colonialisme, en fait, dans notre manière en Occident de s'accaparer des cultures et des rites. On prend ce qui nous plaît et on laisse le reste. Je pense que c'est important, quand on se connecte à un rituel ou une culture, de la prendre dans son entièreté, non pas d'adhérer à tout ce qui est dedans, mais de garder son esprit critique en soi, mais en tout cas de pas arriver avec ses gros sabots et juste de prendre ce qui nous plaît et basta. Ça m'avait vachement choquée en Inde, je reviens un petit peu sur mon voyage, j'avais pas sorti le podcast où je vous parlais de ce voyage, mais du coup ça me permet de glisser des petites anecdotes parfois par-ci par-là, où on avait des personnes dans ce groupe qui n'adhéraient pas. Et ça, c'est pas très grave. Les gens qui n'adhèrent pas, ils adhèrent pas, et puis c'est pas grave. Mais ce qui me dérange plus, c'est les gens qui adhèrent pour qu'une seule partie et qui rejettent complètement l'autre. Donc ils vont prendre justement que ce qu'ils veulent et ils vont laisser le reste. Pour vous donner du contexte, c'est des gens qui vont venir apprendre les mantras, mais qui vont pas du tout s'intéresser à la vie collective de l'ashram. Donc on vient prendre un savoir, mais on ne vient pas se mêler à ce que ça comporte, c'est-à-dire aussi une vie qui est rythmée avec l'apprentissage et la passation des mantras. C'est juste pour dire que quand on veut se connecter au rituel d'une culture ou voilà, aux traditions d'une culture, on peut pas juste prendre ce qui nous plaît. Bref, petit aparté, mais c'est vrai qu'en Occident, c'est dommage qu'on se dise que on n'est pas assez riche dans notre cœur pour créer nos propres rituels, tout simplement. Si vous ne vous reliez à aucune religion, aucune tradition, vous pouvez créer les vôtres, tout simplement. Tant qu'ils sont faits avec le cœur et qui vous parlent à vous et qui vous font du bien, si vous le faites régulièrement et si ça ouvre votre cœur, ça peut être vos rituels à vous. Pas besoin forcément d'aller piocher, se relier à quelque chose pour légitimer votre pratique de foi. Bon, je suis partie un petit peu loin. Mais je voulais rebondir là-dessus parce que j'ai entendu une podcasteuse, Amel, si tu passes par là, qui parlait de sa foi et qui parlait du fait que, par exemple, elle faisait le ramadan. Et elle disait qu'en clair, la discipline du jeûne, ça permettait de pouvoir surmonter après des obstacles un petit peu plus, enfin, plus durs dans la vie. Et en fait, on s'entraîne d'une certaine manière à se mettre dans une forme d'inconfort, mais c'est une discipline dans laquelle on s'entraîne pour que quand il y a de grosses épreuves, on ait eu l'habitude de se mettre dans un inconfort et de garder la foi même dans cet inconfort. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant, et c'est vrai que dans nos sociétés, on n'a plus l'habitude d'être dans un inconfort, et où si on est dans un inconfort, on va directement chercher le confort. Et on a la même chose avec les moines, hein, qui vont se mettre dans des pratiques physiques et méditatives hyper compliquées parfois, mais c'est parce que c'est pour s'entraîner aussi dans une discipline de l'inconfort, pour accueillir justement les phases de plus compliqué de la vie avec beaucoup plus de stabilité et d'ancrage. Et ce que je vous disais par rapport à la mort juste avant, ça rentre un petit peu dans cette même lignée, c'est-à-dire que si on avait plus l'habitude d'être confronté à la fin des choses, que les personnes puissent plus parler de leurs échecs, et c'est pour ça que je fais ce podcast aussi, qu'il y ait une parole libérée sur les phases compliquées. Moi, pour vous dire, je regardais beaucoup de vidéos YouTube de personnes qui parlaient de leur anxiété, de ce qui se passait pour eux, etc., parce que ça me rassurait d'avoir des discours de ce type dans une société où la réussite et le fait de pouvoir surpasser quelque chose est mis en première ligne. Si on est un peu plus confronté à la fin des choses ou qu'on ne censure pas la mort ou les petites morts au quotidien, eh ben justement on fera plus face aux choses qui se terminent dans notre vie en les comprenant, en les acceptant pour ce qu'elles sont. Et parce qu'on a été confronté à ça très souvent dans notre environnement, on a bien vu que à chaque fois que les personnes vivaient quelque chose comme ça, elles s'en sortent. C'est pour ça qu'à mon sens, et ce podcast fait partie de ça, qu'il faut libérer la parole, parce que plus on libère la parole, plus on montre des chemins de résilience, et plus on se sent moins seul en tant qu'être humain en se disant « Ah, il y a quelqu'un qui est passé par là, et il y a un après où ça s'est libéré et ça se passe bien. » Mais la mort n'est pas une fin en soi. C'est une étape. Waouh, je suis partie loin. Tout ça pour vous dire que c'est un cheminement de tous les instants, mais il ne faut pas le voir non plus comme un marathon. Je suis plus dans une observation consciente de ce qui se passe. Mon mental va parfois s'affoler et je vais juste le reprendre. Plus on va reprendre le mental, moins on lui donne de la place. Moins on lui donne de la place, moins il va en prendre, tout simplement. De manière générale, je ne le crois plus du tout, ce mental. Je ne le crois plus du tout. Je lui dis, je suis même un petit peu rentrée dans une sorte de bully avec mon mental, c'est-à-dire que je le malmène un petit peu. Je dis, franchement, c'est n'importe quoi ce que tu es en train de me dire là. Avec des mots un petit peu plus salaces, mais je dis, bon, allez, hey, bullshit, c'est bon, hein, n'importe quoi. Et je me moque un peu de moi-même, en fait. C'est vraiment une autodérision pour dédramatiser. Genre le mental qui va me dire oh, oui mais là tu vas pas réussir à tenir tes objectifs, ça va pas le faire. Et je le stoppe en disant allez c'est bon, c'est n'importe quoi, t'aurais déjà réussi à faire plein de choses, je vois pas pourquoi tu n'y arriverais pas là maintenant, et si tu n'y arrives pas, il y aura d'autres choses. Voilà, c'est tout. Donc c'est juste de vous prendre au pied de nez, de prendre ce mental en pied de nez en lui montrant à quel point il est à côté de la plaque, quoi. Bref, je sais pas ce que ça a donné ce podcast. Je pense que c'était un gros n'importe quoi. Mais j'espère que ça peut vous aider. Je pense que ma pensée n'était pas du tout structurée. Mais s'il y a au moins une chose que vous avez pu prendre Tout ce que j'ai pu dire et qui vous aide, moi, c'est gagner. La fin n'est qu'une étape. L'affolement n'est qu'irrationnel. Et quand on est dans ce côté irrationnel, on en oublie toutes les ressources que l'on a, qui sont énormissimes. Ne croyez pas votre mental et demandez d'autres points de vue autour de vous. Que les autres amènent leur perception des choses. Et vous allez voir qu'en général, vous avez beaucoup à apprendre d'autres perceptions parce que vous vous désolidarisez du petit monde que vous vous créez dans votre tête. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous laisse sur cette conclusion qui n'en était pas vraiment une. Je vous parle déjà depuis bien assez longtemps. Je vous fais des bisous et je vous retrouve pour un prochain épisode un peu plus classique. Je vous ai dit, hein, c'était pas mon champ d'expertise que d'avoir ce genre d'épisode où je déroule ma pensée. Mais bon, écoutez, c'est mon podcast. Bon, je suis désolée. Allez, je vous embrasse. C'était En bas de Manipura. À l'épisode prochain. Merci. Manipura, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. Et si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ou à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Pour continuer vos explorations, vous pouvez accéder gratuitement au contenu Manipura sur la newsletter, les réseaux sociaux ou le site internet en cliquant sur le lien dans la description de l'épisode. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez bien soin de vous.